VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Le bilan du naufrage de deux embarcations de migrants surchargés au large de Djibouti est passé à au moins 52 morts et pourrait encore s'alourdir selon l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Les secouristes continuent aujourd'hui à chercher des corps sur les plages des environs de la petite ville portuaire d'Obok sur la côte nord-est de Djibouti. Le bilan pourrait donc s'aggraver. Des dizaines de personnes restant portées disparues. Un survivant a estimé à 130 le nombre de personnes à bord du bateau sur lequel il se trouvait, a indiqué l'OIM. En République démocratique du Congo, la mission des Nations Unies a indiqué hier avoir été sollicitée par les autorités pour contrecarrer un projet de déstabilisation du Rwanda voisin par des rebelles hutu-rwandais qui ont quitté la province du Nord Kivu en direction de celle du Sud Kivu dans l'est du pays. Eddie Sango.
Leila Zerougui, chef de la MONUSCO, a affirmé hier avoir reçu une lettre du ministre congolais de la Défense sollicitant un appui des casques bleus aux militaires congolais pour contrecarrer une rébellion visant les Rwandais voisins à partir de la RDC. Le ministre congolais de la Défense, Crispin Atamatabe, note qu'il a été observé un déplacement des rebelles hutu-rwandais des forces démocratiques pour la libération du Rwanda de la province du Nord Kivu vers celle du Sud Kivu. Il serait sollicité par le général rwandais Kayumba pour former une coalition en vue d'une action belliqueuse contre le Rwanda à partir du sol congolais, signale les ministres de la Défense. La RDC sollicite ainsi l'appui de la MONUSCO au FRDC, écrit M. Atamatabe dans ses courriers datés du 18 janvier. La MONUSCO a alerté les autorités rwandaises, selon Mme Leila Zerougui. Lundi, Kinshasa a indiqué avoir extradé vers le Rwanda deux chefs des FDLR, dont leur porte-parole, Bazeye Fils-Laforge.
L'ONU a accordé à la Russie et à la Chine de nouvelles exemptions à l'embargo sur les armes imposé à la Centrafrique, qui devait être renouvelé aujourd'hui pour un an supplémentaire par le Conseil de sécurité de l'ONU. Environ 3000 Centrafricains, dont le premier ministre Mathieu Simplice-Sarrangy, avaient manifesté lundi à Bangui pour exiger à nouveau la levée de cet embargo. Le gouvernement respecte l'embargo alors que les groupes armés reçoivent des armes. Le peuple centrafricain ne peut pas comprendre cette loi de deux poids deux mesures, a affirmé le premier ministre. L'opposant mauritanien Biram Da Abed a annoncé hier qu'il se présenterait à l'élection présidentielle prévue en juin. Le pouvoir a confirmé la probable candidature du ministre de la Défense après deux mandats du président Mohamed Ould Abdelaziz. Les détails, John Lindon.
Le militant anti-esclavagiste Biram Da Abed, déjà candidat malheureux en 2014, a réitéré sa volonté de se présenter au scrutin présidentiel cette année. Élu député en septembre, grâce à une alliance entre son mouvement non reconnu et le parti d'orientation baasiste Azawab, il avait été arrêté en août pour menace contre un journaliste, puis avait été libéré le 31 décembre. Le ministre de la Défense, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, dit Ould Ghazouani, sera le porte-drapeau du parti au pouvoir. Cela a été confirmé mardi par un tweet de Mohamed Ould Mahamadou, chef du parti au pouvoir, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture. Compagnon de toujours de Mohamed Ould Abdelaziz, avec lequel il a participé à deux putschs en 2005 et 2008, Ould Ghazouani, 62 ans, a été chef d'état-major de 2008 à son entrée au gouvernement en novembre. Le président sortant, Ould Abdelaziz, s'est engagé à maintes reprises à respecter la Constitution et achèvera son second mandat en août prochain.
Une cour de justice nigériane a rejeté hier le recours intenté par le président de la Cour suprême accusé de fraude et suspendu de ses fonctions par le président nigérian la semaine dernière, à moins de 3 semaines de la présidentielle. Walter Onogen, président de la Cour suprême, était poursuivi depuis 2 semaines par un tribunal du code de conduite spécialisé pour juger des questions éthiques. Le chef de l'État nigérian, Muhammadu Buhari, l'a suspendu sans attendre son audition, provoquant la colère de l'opposition et du monde de la justice qui ont dénoncé une dérive autoritaire et un coup d'État contre l'appareil judiciaire. Au Niger, les centrales syndicales menacent de paralyser l'administration si dans 2 semaines leurs revendications sociales ne sont pas satisfaites. Déjà, les travailleurs du secteur de la justice observent un arrêt de travail de 2 jours. À Niamey, retrouvons notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
C'est une dizaine de revendications que les principales centrales syndicales du pays posent au gouvernement de Brigitte Affini.
La convocation du comité sur la réduction du prix des hydrocarbures, la création du cadre de concertation sur la réduction des prix de la téléphonie, la mise à la disposition du comité chargé du parachèvement du processus de la mise en place de la mutuelle de santé des agents de l'État, de ressources nécessaires, l'organisation de l'atelier de validation sur la révision de la convention collective interprofessionnelle.
Le gouvernement s'est pourtant engagé à satisfaire ses revendications au plus tard à la fin de l'année 2018. L'intersyndicale des travailleurs du Niger ne comprend pas cette attitude. Jibril Idrissa, coordonnateur de l'ITN.
Nous ne pouvons pas comprendre qu'un gouvernement signe librement des accords et qu'il ne soit pas capable d'appliquer au moins un point. Même la mise en place du comité de suivi n'a pas été faite. C'est-à-dire que tous les points qui ont fait objet d'accord, rien n'a été fait par le gouvernement, alors que certains points sont des points qui ne sont pas difficiles à appliquer. Et mieux, nous avons même fait une lettre de rappel au ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale le 10 janvier, mais là aussi, sans réaction. C'est ce qui a amené l'ITN à donner un délai de 2 semaines au gouvernement pour appliquer tous les points arrivés à échéance. Après les 2 semaines, bien sûr, l'ITN va user de tous les moyens légaux pour se faire entendre ou pour satisfaire ses revendications.
Les agents du secteur de la justice, eux, n'ont pas attendu la fin de cet ultimatum de l'ITN, le syndicat national des agents de la justice, composé essentiellement des greffiers des tribunaux, a appelé ses militants à observer dès ce mercredi un mouvement de grève de 48 heures. Madame Sani Essata Garba, membre du SNAJ.
Entre autres, on peut vous citer, par exemple, l'adoption de la grille salariale qui, normalement, après l'adoption des statuts, on doit adopter une nouvelle grille salariale parce que qui dit statut autonome dit nouveau traitement indiciaire. Malheureusement, de 2015 à aujourd'hui, le gouvernement ne s'est jamais comporté en bon responsable. Et comme il n'y a pas de grille salariale, récemment, nos camarades ont été recrutés. Ça fait aujourd'hui 8 mois, ils n'ont reçu aucun copec. Ils n'ont même pas été mis en solde, à plus forte raison, recevoir leur salaire. Imaginez-vous, si on veut un meilleur rendement, si on est vraiment conscient de ce que la justice joue dans un pays, le greffier n'est pas à négliger. Je précise qu'il s'agit d'une grève d'avertissement.
Abdul Razak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
L'entité imaginée par l'Union européenne pour commercer avec l'Iran, malgré les sanctions américaines, va être officialisée aujourd'hui en marge de la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à Bucarest, une déclaration commune de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Les 3 parrains de cette entité doivent être rendus publics dans la journée par les 3 capitales. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, n'a pas exclu ce jeudi un report du Brexit au-delà du 29 mars pour permettre le vote des lois nécessaires à sa mise en œuvre si un accord de divorce est approuvé tardivement. Toute demande de report doit être approuvée par les 27 autres pays de l'Union européenne. La Russie et les États-Unis ne sont parvenus à aucun progrès lors d'une rencontre consacrée au traité nucléaire sur les armes nucléaires de portée intermédiaire, les INF, ce jeudi, à 2 jours de l'expiration de l'ultimatum lancé par Washington à Moscou, a annoncé aujourd'hui un haut responsable russe. Le mois dernier, les États-Unis ont donné à la Russie 60 jours avec échéance au 2 février pour démanteler les nouveaux missiles violant, selon eux, le traité menaçant de lancer une procédure de retrait. La Russie dément ces accusations sans fondement, accusant en retour Washington de violer le traité. Et puis une vague de poulets qui a envahi une partie des États-Unis cette semaine du Dakota à l'Ohio, entraînant des températures extrêmement basses, a provoqué la mort d'au moins 12 personnes. l'annulation de plus d'un millier de vols et l'interruption de la livraison du courrier postal. Les écoles ont été fermées dans plusieurs villes du Middle West hier mercredi, notamment à Chicago, et le seront encore aujourd'hui. Le mercure a dégringolé jusqu'à moins 48 degrés Celsius dans une zone du Minnesota. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque. Bon après-midi à tous. Je vous souhaite du soleil dans vos cœurs.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.